marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
C'est donc si passionnant l'histoire.
C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
Anton Tchekhov, notre prochain.
L'unique fois que j'ai vu Anton Pavlovitch Tchekhov, c'était à cette première de La Cerisaie au Théâtre d'Art de Moscou en janvier 1904. Toute la Russie artistique, toutes les personnalités étaient présentes. Après le troisième acte, Anton Tchekhov est venu sur la scène. Il partait le lendemain pour se soigner à l'étranger. Tout le monde le savait condamné. Les hommes les plus intelligents et les plus illustres lui disaient leur admiration et toute la salle debout suppliait Tchekhov de s'asseoir. Il resta debout une heure pendant que défilaient les plus grands Russes pour lui dire leur gratitude.
1904, le respect général. 1914, pour le 10e anniversaire de sa mort, la gloire. La période qui suit 1917, dominée par les soldats de la Révolution et les sentinelles du progrès, aurait pu lui faire perdre tout crédit. Maïakovski, parmi d'autres, le moqua. Ils sont 40 sur le divan, tante Mania, tonton Vania, mais nous n'en avons pas besoin, nous les avons déjà à la maison. Non, le scepticisme, le sens de la dérision, surtout le goût de l'observation à hauteur d'homme de Tchekhov le rendent toujours indispensable. Quand il fait intervenir un personnage, un motif, il en présente un versant, puis revient, en présente un autre et encore un autre, ni saint, ni salaud, et lui n'est jamais juge ni même arbitre. C'est ainsi qu'il se retrouve parfaitement au diapason de notre époque qui est assez vacciné contre les idéologies. En apparence, son discours concernait la Russie de son temps, du moins on a pu le croire, et il lui est arrivé de le craindre. En réalité, il est d'ici et de maintenant. D'ailleurs, il n'y a pas de discours chez Tchekhov, plutôt une polyphonie. Dans la tétralogie que constituent les chefs-d'œuvre des dernières années et que vient clore La Cerisaie en 1904, les personnages forment une constellation, aucun ne dominant vraiment l'autre. C'est ainsi que Tchekhov est non seulement notre contemporain, mais notre prochain, comme Shakespeare, qu'il connaissait si bien.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Bonjour à vous, Georges Banu.
Bonjour.
Spectateur averti, vous aviez publié un livre très personnel sur La Cerisaie chez Actes Sud, et vous en publiez un tout aussi personnel, mais très différent, vous ne vous répétez pas, Georges Banu, c'est chez Ides et Calandes, et ça s'intitule Le théâtre d'Anton Tchekhov. Dans sa jeunesse, il n'a pas eu le temps d'être vieux, il se partageait, disait-il, entre la médecine, il était médecin, et la littérature, comme entre le lit de la femme légitime et celui de la maîtresse. C'est très important, la médecine chez Tchekhov.
Ah oui, c'est tout à fait essentiel. Moi, dans ce livre paru dans la collection d'Ides et Calandes, j'ai pas eu la place pour décrire différentes expériences personnelles. Quand je suis allé voir le cabinet, la maison, l'appartement de Tchekhov à Moscou, sur la porte c'était marqué « Docteur Anton Pavlovitch Tchekhov ». Et à droite, il y avait le bureau de travail de l'écrivain et à gauche, le cabinet. Quand je suis allé, c'était encore plus émouvant, à Melikhov,
sa propriété
à 60 km de Moscou, c'est très flagrant. On entre. J'ai passé du temps dans la salle d'attente de docteur Tchekhov. Je voyais le lit et surtout ce qui était très émouvant, j'ai vu le catalogue ou le cahier où il notait les médecins et le livre qu'il a consulté le plus et qu'il a marqué, c'est le livre sur une épidémie de typhus où il s'est dépensé comme sans aucune précaution pour sauver ces paysans qui se trouvaient dans ce village perdu Melikhovo. Je crois que en même temps ce qu'on dit c'est que ce regard du médecin sur le monde a laissé des traces sur l'écriture de Tchekhov. Et je pense que j'essaie de le dire un tout petit peu dans ce livre, c'est que Tchekhov a refusé d'être sentimental dans la mesure où il voulait plutôt diagnostiquer des maladies que s'embourber dans ce qui est le propre de l'âme russe, l'affection et les sentiments.
Bon, on ne va pas insister sur les œuvres de jeunesse, vous ne le faites pas. Vous préférez vous intéresser aux pierres d'attente. Il écrivait un peu à la manière du vaudeville, très vite, quand il avait 20 ans, 22, 23 ans. Encore que Platonov, il commence à le rédiger à 20 ans.
Oui, mais c'est qu'il y avait deux. D'un côté, il est prisonnier de ses croquis, contre lequel il est mis en garde par son ami critique inséparable, Souvarine, qui lui dit « ton aisance va te tuer », phrase qu'il a marquée. Et de l'autre côté, il ébauche son univers qui est encore en forme dans Platonov, pièce oubliée, pièce géante, qui n'a pas eu le temps de couper, de raccourcir, mais qui est une pièce qui est revenue ces derniers temps, aussi bien que Ivanov, comme des pièces fondatrices de ce qu'on appelle le jeune Tchekhov.
Disons Ivanov, il le rédige quand il a 27 ans. Je vous propose d'écouter, vous parlez de son ami critique, la correspondance de Tchekhov avec lui et avec d'autres est extrêmement abondante et passionnante à lire. Nous sommes un an avant Ivanov, il a donc 26 ans.
L'art a ceci de particulièrement excellent qu'on ne peut pas mentir en l'exerçant. On peut mentir en amour, en politique, en médecine. On peut tromper les gens et même Dieu, il y en a des exemples. Mais on ne peut pas mentir en art. On me reproche de n'écrire qu'à propos d'événements médiocres, de n'avoir pas de héros positifs, des révolutionnaires, d'honnêtes chefs de police. Mais où les prendre? Je ne demanderai pas mieux. Nous menons une vie provinciale, les rues de nos villes ne sont même pas pavées, nos villages sont pauvres, notre peuple est usé, tous dans notre jeunesse, nous gazouillons comme des moineaux sur un tas de fumier, et vers la quarantaine, nous sommes comme des vieillards, déjà en train de penser à la mort. Quels héros sommes-nous?
Nous sommes dans une société provinciale, encore que Moscou est présent au loin. Nous gazouillons comme des moineaux sur un tas de fumier. L'époque est floue. Quels héros sommes-nous? Ainsi parlait-il de sa Russie.
Oui, justement, il parle parce qu'il est, à mon avis, l'auteur qui jette le regard le plus lucide sur la situation de la Russie et qui ne se lance pas ni du côté du panslavisme, très dangereux, même à l'époque, ni du côté excessif de l'oubli de l'origine russe, du côté des occidentalistes. Tchekhov est entre les deux et dans ses textes, ce sont des textes d'un auteur, disons, pas engagé, mais d'un auteur qui assume une responsabilité civique. Il a donné des leçons, justement, d'un rapport pratique avec les malheurs du monde. Il a moqué les discours utopistes de Pétia dans 100 ans. Pour lui, 100 ans, c'était énorme. Mais il a voulu dresser des écoles, instaurer des hôpitaux et aussi être vigilant par rapport à cette terreur d'État qui est le précurseur du Goulag, qui est l'île de Sakhaline.
L'île de Sakhaline est un bagne à l'est auquel il va rendre une très 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 longue visite pour témoigner à hauteur d'homme du sort des bagnards et des relégués. Mais je voudrais qu'on en vienne à Ivanov, deuxième grande pièce, pierre d'attente, après Platonov. C'est quand même un homme très mélancolique que cet Ivanov qui est entouré de femmes, là, qui cherche le levier qui pourrait le faire redevenir un héros.
Bah oui, Tchekhov s'est méfié toute sa vie des héros. Et justement, Ivanov, il a un peu sa sympathie en raison même de l'échec du personnage. Il ne peut pas devenir un héros. Il n'est pas un héros dostoïevskien. Les héros dostoïevskiens sont écartelés, déchirés, harcelés. Mais Ivanov, c'est seulement quelqu'un qui est l'homme vaincu par les femmes, l'homme vaincu par les vies. Et cela le place dans la catégorie de ce qui est très important dans la littérature russe, ce qu'on appelle l'homme de trop. L'homme de trop, Ivanov ne sait plus très bien à quoi il sert, à lui, aux autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il finit avec une balle dans la tête.
On va entendre un grand mélancolique, Tchaïkovski, qui avait un certain goût pour les hommes, non?
Très affirmé.
Il ne faut pas le dire.
Il ne faut pas le dire, à Moscou, non.
Il y avait une blague là-dessus, non?
Mais il y avait une blague très belle dans la fameuse radio Erevan, qui était une radio dissidente. Un auditeur demande, est-ce que c'est vrai que Piotr Ilitch Tchaïkovski était homosexuel? Le journaliste répond, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous l'aimons.
Le trio en la mineur avec Richter. Georges Banu, quand vous entendez ce morceau, viennent, comme dans une pièce de Tchekhov, des souvenirs. Vous vous souvenez, dit-on souvent.
Viennent de souvenirs, c'est vrai que je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'étais invité au mariage de Peter Stein, le grand metteur en scène allemand qui avait travaillé à Moscou. Et pour ce mariage, il avait choisi justement de faire écouter ses invités ce morceau trio extraordinaire de Tchaïkovski que je ne connaissais pas, qui est peut-être pour des moins spécialistes que moi, très peu connu, et tout d'un coup, comme dans Proust, c'est la mémoire affective parce que les interprètes jouaient ce morceau de Tchaïkovski qui m'a bouleversé. En même temps, il y avait une pluie terrible. J'assistais à un échec de la fête, un insuccès de la fête, comme disait Florence Deleuze, un insuccès de la fête et au bonheur des âmes, parce que nous étions ensemble, et avec Gruber, Klaus-Michael Gruber, qui criait de froid, tout ça, Stein qui essayait de couper un agneau, et les Russes jouaient.
Vous voyez, c'est très tchaïkovien ce
tout
récit.
Tout à fait, oui.
Tchaïkovski, qui connaissait bien Tchekhov, Tchaïkovski, ça veut dire le lieu
des mouettes.
Le lieu des mouettes.
Tchaïka. Tchaïka, ça veut dire mouette en russe.
Alors, la mouette appartient à ce que vous appelez la tétralogie. La dernière pièce de cette série, c'est la Cerise. Il y a aussi Oncle Vania et les trois sœurs. Puisqu'on est sur le mode du souvenir, vous souvenez-vous?
Vous vous souvenez comme on était bien autrefois? Comme la vie était claire, chaude, joyeuse, pure, comme les sentiments ressemblaient à des fleurs tendres et gracieuses. Vous vous souvenez?
Je ne reconnais pas mes personnages. Sous prétexte que votre personnage est malheureux, vous adoptez un jeu larmoyant. Un jeu qui nous dit à tout moment: ah, comme cette femme n'est pas heureuse. Excusez-moi, mais J'ai remarqué que les gens malheureux pouvaient chantonner ou siffloter et rester pensifs tout à coup. C'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué dans mon texte. Mais vous n'en tenez pas compte. Vous voulez prouver à quel point vous êtes de bons comédiens. Mais du coup, vous tuez les personnages. Soyez plus simple. N'ayez pas peur de l'ennui et suivez mes indications. Mes personnages sont dans l'ennui de leur vie et la conscience de leur échec. Emmenez le spectateur dans cet ennui, sans aucun souci d'esthétisme.
Dans le dernier film du regretté René Ferret, c'est Nicolas Giraud qui interprète Tchekhov, un Tchekhov désolé devant les répétitions de La Mouette en 1896.
Oui, tout à fait. C'est vraiment très passionnant de lire les lettres de Tchekhov, ces textes de Tchekhov qui a été un grand écrivain, mais qui a été aussi un grand visionnaire pour ce qui est du style de jeu. Il faut bien dire qu'il a aimé énormément l'actrice qui était chère aussi à Giorgio Strehler, à Luchino Visconti, à Eleonora Duse, l'italienne toute petite qui marmonnait les mots comme ça, et qu'il détestait Sarah Bernhardt, qui était sa bête noire, justement par cet abus de théâtralité. Et ça fait un peu chic, excusez-moi, mais j'étais dans la loge où Tchekhov...
Ah ben vous êtes toujours aux bons endroits. Oui.
J'étais au bon endroit, parce que je les cherche, j'en ai besoin. Donc, j'étais au Théâtre Alexandrinsk avec un ami directeur artistique du Théâtre Alexandrinsk, dans la loge où Tchekhov a assisté à la première de La Mouette, qui fut un échec absolu. Et en même temps, cette loge explique l'échec, parce que la salle est énorme, c'est comme une salle d'opéra, donc les acteurs doivent surjouer, et cela vient tout à fait à l'encontre des exigences de Tchekhov. Et il va falloir attendre ensuite le Théâtre d'art de Moscou, où Stanislavski avec Danchenko vont retrouver, ou vont trouver le style, cette proximité, ce parler quotidien, si cher à Tchekhov.
Pas d'emphase, pas de sentimentalisme. C'est ce que vous disiez quand vous parliez de la pratique de Tchekhov médecin. Aller en ligne droite, être bref aussi. Autrement, on fait un grand roman russe. Si
être bref. Mais Brooke le dit chez Tchekhov, on se trompe. C'est ce qui est le plus important, ce sont les points et pas les points de suspension. Mais finalement, on parlait de souvenirs. Moi, j'ai le souvenir de la première Mouette qui m'a bouleversé ici au Théâtre de la Ville, dans la mise en scène de Lucian Pintilie, où j'ai entendu vraiment une œuvre que je portais avec moi et qui était révélée par le metteur en scène, par Hugues Kester et toute cette distribution. Donc je pense que Tchekhov, c'est comme un auteur, comme un compositeur qui a besoin que quelqu'un trouve le ton, trouve la note juste.
Vous parlez de compositeur, il compose des polyphonie, pas des rôles principaux pour Sarah Bernhardt avec des satellites autour.
Oui.
Il compose des constellations où tout est distribué démocratiquement, dites-vous, entre les personnages.
Tout à fait. Donc, c'est en travaillant pour ce livre, je remercie publiquement René Zand et Hélène Morer avec lesquels j'ai travaillé vraiment pour raccourcir tout ça. Et
justement, vous ne voulez tout de même pas que je dise le nom de la collection ou de l'édition une fois encore. Non, pas du tout.
Ça va.
Continuez.
Ça va. Non, mais je voulais leur dire parce que ça a été une relation amicale et que justement dans ce travail, Tchekhov était extrêmement exigeant et lucide. Et on avait même essayé de jouer dans un autre style. Ça n'a jamais fonctionné. Et aujourd'hui encore, les lettres écrites par Tchekhov de très loin de Yalta à Stanislavski sont des indications parfaites, presque beckettiennes, de la meilleure manière de s'attaquer à ces textes économes, parcimonieux et réfractaire à toute éloquence.
Et il est un grand partisan du retranchement. Il est vrai que médecin, il fait l'expérience de la maladie. C'est d'ailleurs parce qu'il est malade qu'il est à Yalta. C'est à Yalta, en Crimée, qu'il écrit la Cerisaie, la dernière pièce de la tétralogie. Soit un domaine improductif.
Bah oui, ce que nous avons tous en tête, les domaines, la mouette, c'est une propriété île, la cerisée, c'est aussi une propriété où les gens veulent se rendre en attente du bonheur et d'où ils veulent s'échapper pour fuir la nuit, pour fuir, disons, le mal de vivre en communauté. Mais en même temps, ce à quoi on ne fait pas attention suffisamment, c'est que ces domaines sont toujours improductif. Et surtout, la cerisée est improductive. C'est qu'on, économiquement, elle est faible.
C'est-à-dire que la pièce commence quand les futurs anciens maîtres arrivent de Paris et il fait froid, le printemps est froid et tout a gelé.
Et tout
les cerises, il n'y en aura pas.
Tout a gelé. Mais en même temps, c'est ce que j'ai essayé d'écrire ici, c'est que en même temps, on découvre que Tchekhov adore la beauté des cerisiers gelés. Lubov aussi. C'est qu'au fond, ce à quoi nous confronte la cerisée, et je crois que ça c'est très important, c'est à la confrontation entre l'utile économique, comme aujourd'hui, et l'apparent. L'apparent, l'inutile trompeur du beau. La cerisée a sa légitimité uniquement par sa beauté. Et j'ai essayé de raconter ce souvenir extraordinaire. J'étais au Japon, invité par un ami, à la saison des cerisiers, et des cerisiers en fleurs. Et là, j'ai compris que abattre ce cerisier, ça serait pour moi comme abattre la cerisée de Tchekhov.
Oui, mais vous êtes du vieux monde qui ne calcule pas ou mal, Georges Banu. Lopakhine, qui représente le monde marchand dans la pièce, lui, il calcule juste. Lopakhine qui, dans la mise en scène de Strehler,
de Peter Brook,
va être interprété par Nils Arestrup le 22 août. La maison a été mise en vente.
La cerise est vendue ?
Vendue.
Qui l'a achetée ?
Moi.
C'est Lopakhine qui ne se tient plus.
Oh Dieu de Dieu ! La cerise est de moi ! Dites-moi que je suis sous. Que je suis fou. Que je m'imagine tout ça. Ne riez pas de moi. Si mon père et mon grand-père sortaient de leur cercueil et voyaient ce qui se passe ici. S'ils voyaient comment moi, leur Ermolaï battu, illettré. Ermolaï qui courait pieds nus, même en hiver. Comment ce même Ermolaï a acheté cette propriété, la plus belle du monde. Moi, j'ai acheté la propriété où mon père et mon grand-père étaient des serfs, où ils n'avaient pas le droit d'entrer, même pas dans la cuisine. Allez, vas-y. Plus fort la musique.
Donc, ce monologue est un chef-d'œuvre d'ambiguïté. C'est d'un côté Lopakhine qui, en achetant la livraison, prend sa revanche sur les maîtres, il raconte sa biographie, mais en même temps, ce monologue témoigne du délire de Lopakhine que aucun des maîtres n'a formulé avec un tel enthousiasme. Il dit « J'ai acheté la plus belle propriété du monde. »
Oui, mais il veut la lotir et abattre les arbres.
Oui, mais c'est de là vient le malheur de Lopakhine, c'est que d'un côté c'est la plus belle propriété du monde et de l'autre côté il se soumet à la logique économique. Et je crois qu'il faut faire très attention à cette, parce qu'en même temps, selon les calculs de l'époque, il a surpayé la cerisée. Il s'est fait avoir économiquement uniquement pour avoir, comme il dit, la plus belle propriété du monde. Il est entre deux, parce qu'en même temps, en réalité, Lopakhine voulait Lubov. Et il a eu un échange, la cerisée.
Et puis le vieux Force, le domestique, est oublié après que les propriétaires anciens sont partis. Oublié, là, devant la porte, ou bien c'est le vieux monde qu'il a abandonné ?
Bah, c'est le nouveau monde, parce qu'il y a un détail important, c'est que Yasha, qui est un salopard, le serviteur qui qui quitte la dernière réplique tchécovienne qui a rapport à la France, c'est Yachin. Yachin, le serviteur qui dit « Vive la France !» Il déteste la Russie, il veut aller en France. Et c'est lui qui ment et il dit « Je l'ai envoyé à l'hôpital. » En réalité, c'est pas un oubli des maîtres. C'est une ruse, une irresponsabilité de Yachin. Mais c'est vrai qu'avec Fierce, meurt le vieux monde, meurt des valeurs qu'il a incarnées, qui étaient peut-être dépassées, conservatrices, mais...
Enfin bref, c'est votre portrait.
C'est mon portrait, je me sens bien en train d'abandonner, pas d'abandonner, de défendre avec mes modestes moyens les vieilles valeurs qui m'ont soutenu et que j'ai défendues.
Mais on ne vous oubliera pas, Georges Banu. Donc le théâtre d'Anton Tchekhov, Ils et Calande. L'émission a été préparée par Elinka Negulesco, réalisée par Audrey Ripouille, avec à la technique Florent Beauvallet.